Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Et c'est Marie que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Marie.
Bonsoir madame.
Appelez-moi Sabine s'il vous plaît Marie. Vous me donnez un coup de vieux d'un coup.
Je ne sais pas si j'arriverai à vous appeler par votre prénom. J'ai beaucoup de mal avec ça.
Ah
donc
bon,
bonsoir madame.
C'est comme vous voulez.
Ce qui a motivé mon appel, c'est pas du tout une question que j'aurais à vous poser, je n'en ai aucune. Ce qui a motivé mon appel, c'est d'avoir entendu Paul, votre dernier auditeur d'hier soir, raconter sa vie et dire une phrase que je n'entends jamais d'habitude, parce que en général les gens ont un petit peu honte de dire ça. Il disait « je n'ai pas d'émotion ». Il ne pleure jamais, il n'a pas d'émotion. Je suis dans le même cas. Mmh. Il avait eu une enfance très dure, il vous a raconté ça hier soir. Mmh. Moi, je n'ai pas eu du tout eu cette enfance-là, mais je suppose que pour moi aussi, tout vient de l'enfance. J'étais fille unique. Je n'étais pas vraiment maltraitée par mes parents, mais j'avais une mère banquise, une mère très froide. Et j'ai eu avec elle une relation que je qualifierais de pathologique. J'avais toujours peur qu'elle m'abandonne. J'ai passé mon enfance à avoir peur qu'elle m'abandonne. Et en fait, elle m'a abandonnée. On m'a mise en pension quand j'avais l'âge de 11 ans. Et je pense que je ne m'en suis jamais remise. Je suis restée donc en pension de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Et dans cette pension, quelque chose de moi est mort. Une partie de moi-même est morte, je ne l'ai jamais récupérée. Je suis sortie de là complètement blindée. Plus rien ne pouvait m'atteindre. Au cours de ces années de pension, eh bien, j'ai été la tête de turc des gamines qui étaient pensionnaires avec moi. C'était un endroit très, très... quand je raconte ça maintenant, j'ai quelquefois raconté ça et on me dit « mais c'est pas possible, tu viens du 19e siècle ». C'était un grand bâtiment qui avait été prison, couvent d'abord, ensuite prison. Il y avait des dortoirs immenses, pas de chauffage. La discipline était terrible. Pourtant, c'était pas une pension religieuse. Mais je n'ai jamais pu surmonter ces années-là. Et donc, il m'était impossible d'avoir une relation d'amitié ou quoi que ce soit avec les autres enfants, les autres filles de mon âge. Je suis donc mise dans un petit coin, j'y suis restée. Le harcèlement scolaire, je sais ce que c'est, je l'ai subi pendant toutes ces années-là. Et pour éviter ça, justement, je me retirais dans un petit coin avec mes livres. C'était ma façon à moi d'éviter d'être... piétiner, d'être... Et ma foi, quand je suis sortie de là, je n'étais pas apte à grand-chose. Du moins, je n'étais pas apte à vivre une vie normale. Et en fait, j'ai continué d'être piétinée. Les rencontres que j'ai faites, les rencontres sentimentales que j'ai faites ont été catastrophiques. C'était de ma faute. Hein. C'est parce que je n'étais attirée que par des hommes qui étaient malveillants, tordus. Évidemment, quand on préfère avoir des relations avec ce genre de personnage, on y laisse toujours des plumes. Mmh. Mais je suis en train j'analyse ça comme ça maintenant, parce que j'ai 71 ans. Mais pendant des années, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je n'ai pas compris pourquoi j'étais différente, pourquoi j'étais malheureuse, pourquoi je n'arrivais pas à être comme tout le monde. Et le fait d'être comme ça, je suppose, m'a complètement blindée contre tout. Je n'ai peur de rien. Rien ne m'atteint. Je n'ai aucune empathie envers mes semblables. Je vis seule, bien sûr. Je suis incapable de vivre autrement que seule. Je n'ai plus de famille, je n'ai pas d'amis, j'ai quelques relations lointaines, quelques relations. Plus de famille, puisqu'à l'âge que j'ai, souvent on n'en a plus. Je n'ai plus personne à perdre, alléluia. Et pas grand-chose me retient sur terre. Alors je me demande, quand on a un chemin de vie comme ça, vous savez, vous êtes peut-être au courant, certaines philosophies disent... certaines croyances disent que, avant de naître, on choisit sa vie. Si c'est le cas, je me demande pourquoi je me voulais tant de mal. Pourquoi j'ai choisi une vie comme ça. Et le seul avantage à avoir une existence pareille, c'est que je vais pouvoir mourir sans le moindre regret. Au contraire, ça va être un soulagement. Cependant, pendant le temps où je suis encore sur Terre, je ne suis même pas malheureuse. J'existe, je ne vis pas, j'existe, c'est tout.
Oui, c'est vrai que votre histoire résonne énormément avec celle de Paul hier soir.
Oui,
je comprends, c'est pour ça, je comprends que ça vous ait touché, parce qu'il y a tellement de similitudes.
Oui.
Et dites-moi, cette mère que vous avez eue, est-ce que vous savez pourquoi elle était comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire de vie à elle pour qu'elle en arrive là?
Apparemment, pas des choses extraordinaires. Elle a eu la vie, une vie normale. Est-ce qu'elle ne voulait pas de moi? Paul a dit que sa mère ne voulait pas de lui et que c'est pour ça qu'il a eu l'enfance désastreuse qu'il a eue. Je ne sais pas si la mienne, si c'est le cas de la mienne. Elle m'a toujours dit l'inverse. Elle m'a toujours dit on t'a, elle parlait de mon père, on t'a désiré. Et je me disais, parce qu'évidemment, elle savait bien que je n'étais pas comme tout le monde, elle le voyait. Et elle n'a pas compris sans doute que j'ai pu avoir un caractère comme ça, être le personnage qu'elle découvrait chez elle. Mais elle me disait « on t'a désiré ». Et je pense que j'aurais préféré qu'elle me dise « excuse-nous, on n'a pas fait exprès de te mettre au monde ».
Parce qu'il n'est pas dans l'ordre des choses qu'une mère soit glaciale avec sa fille, ça n'est pas normal. On peut être plus ou moins tactile, plus ou moins chaleureuse, mais on n'a aucune raison, sauf s'il y a un problème particulier, d'être glaciale avec son enfant. C'est pour ça que je dis qu'il s'est forcément passé quelque chose.
Alors, s'il s'est passé quelque chose dans son enfance à elle, dans sa vie à elle?
Je ne sais pas, peut-être, oui. À un moment donné de son existence, en tout cas.
Peut-être, mais je ne sais pas.
Vous l'avez
je
pas
ne sais
su.
Pas. Je suppose que quand elle disait « on t'a désiré », elle le croyait réellement. Mais parce que si elle n'a pas voulu de moi, elle a sans doute occulté ça. Et c'était enfoui dans son inconscient. Et c'est peut-être ça qui se manifestait par cette façon d'être avec moi. Cette mère banquise, c'est peut-être à cause de ça qu'elle était comme ça. Elle l'avait peut-être pas voulu de moi en fin de compte, mais elle se l'avouait pas. Elle s'est mariée très tard, très très tard. Mon père aussi, ils avaient le même âge tous les deux.
C'est-à-dire, c'est quoi très tard pour vous?
À l'époque, dans les années, c'était donc au début des années 50, ils avaient 35 ans l'un et l'autre.
Donc elle vous a eu relativement tard pour l'époque?
Oui, pour cette époque-là, oui. Ouais.
En tout cas, sa froideur a réussi à geler vos émotions à vous, ça c'est sûr.
Sans doute, oui, oui. Donc je n'ai pas de questions particulières à vous poser, j'avais juste ça à dire. Je n'ai inutile de vous dire que je n'ai jamais eu d'enfant, que je n'ai jamais voulu en avoir.
Oui,
et heureusement pour... C'est un non-sens de dire ça, mais heureusement pour mes enfants qu'ils n'existent pas. Parce que ça aurait été catastrophique pour eux et pour moi. Et de toute façon, j'ai toujours pensé qu'avoir des enfants, c'était le summum de l'égoïsme. Pourquoi est-ce que les gens ont des enfants? C'est une façon de refuser de mourir, c'est une façon d'être éternel. Mais c'est très égoïste, on ne pense qu'à soi. On ne se demande pas si l'enfant qui va venir a envie de vivre, a envie d'être là, dans cette fosse à serpents. Je trouve ça très égoïste.
Ah, c'est votre vision du monde?
Oui.
Parce que vous avez été rempli de toute cette froideur, toute cette souffrance, et c'est logique que vous voyez les choses comme ça. Est-ce que, comme Paul, vous avez une relation quand même particulière avec les animaux, par exemple, comme lui avec son chat ou sa chatte, je ne sais plus?
C'est assez étonnant que vous me posiez cette question, parce que j'allais vous en parler. La seule chose qui peut briser cette sorte d'anesthésie dans laquelle je suis, c'est la souffrance des animaux.
Et oui, bien sûr. C'est complètement
donc,
normal.
Je ne sais pas si c'est normal, mais quand la souffrance de mes semblables ne me fait pas du tout souffrir, ça m'est complètement indifférent. Par contre, quand il s'agit de la souffrance des bêtes, quelle qu'elle soit, j'ai l'impression de la ressentir, cette souffrance. Je la sens en moi, je la sens dans ma peau, dans mes veines, et j'ai l'impression de souffrir avec les animaux. C'est la seule chose qui me permet de ne plus être sous anesthésie. Et donc, vous savez bien que pour les animaux, le monde n'est vraiment pas idéal. Donc, comment est-ce que je pourrais aller bien, sachant qu'ils souffrent beaucoup plus que les humains?
Et est-ce que, du coup, vous êtes impliquée dans la défense des animaux? Est-ce que vous êtes dans
oui.
une...
Oui. Oui, je l'ai été tout au long de ma vie, oui.
D'accord.
Oui.
Oui, je vous disais tout à l'heure, ça me paraît normal, parce qu'il y a en vous une petite fille blessée qui est comme un animal sauvage, en boule. Et c'est presque une reconnaissance par rapport aux animaux. Cette souffrance-là, quand vous dites « elle résonne en moi », ben oui, forcément. C'est cette injustice, parce que l'animal est comme un enfant totalement dépendant, finalement, de l'autre, de l'homme.
Exactement, exactement.
Et c'est tellement pas juste.
On peut faire de ce qu'on veut.
Exactement.
Oui, oui. Ils n'ont aucune façon de se défendre, même les plus gros animaux de la planète, les éléphants, les baleines. Ils n'ont, face aux humains, ils n'ont absolument aucune façon d'échapper à la mort, à la souffrance, à tout ce qu'on leur fait subir.
Comme un petit enfant.
Oui, peut-être aussi, oui, mais vous savez, les enfants et moi.
C'est pas des enfants que je parle, c'est de la petite fille que vous étiez. Cette petite fille-là, elle a subi tout ça et elle pouvait rien faire. À part se blinder pour pas souffrir trop.
C'est peut-être ça, oui, oui. J'ai toujours été dans la distanciation sociale qui est tellement à la mode en ce moment. Moi, j'ai l'impression d'être née avec.
Oui. Vous êtes forgé une armure énorme.
Oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne me rend même plus malheureuse. Alors évidemment que tout au long de ma vie, pendant des années et des années, je me suis demandé pourquoi je n'étais pas normale. Je me considérais comme étant anormale. Et ça me faisait souffrir, ça, parce que j'aurais bien voulu être comme tout le monde. Là, maintenant, il y a quelques temps que même ça m'a quittée, même ça. Je ne suis plus malheureuse. Je tiens seulement, jusqu'à la fin de ma vie, à rester tranquille, à ne plus avoir aucun lien avec qui que ce soit, aucun lien qui compte, je veux dire, parce que j'ai pas envie de recommencer à souffrir. Donc, en restant dans le désert, je ne suis pas si mal dans le désert affectif.
Oui, c'est une protection.
Oui. Oui.
Est-ce que vous avez quand même réussi à construire une vie professionnelle?
Oui, quand même.
Ça,
parce
oui.
que oui, mais j'ai fait un métier que je n'aimais pas. J'ai fait ce métier parce qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Il n'était pas question, quand je suis sortie de ma pension, de rester en présence de ma mère, qui l'a montré qu'elle ne me supportait pas. Là, elle le montrait vraiment.
Vous n'avez jamais réussi à parler avec elle de cette souffrance?
J'ai essayé, mais elle disait « je n'ai rien ». Oui, j'ai essayé jusqu'à la fin de sa vie. Et elle a toujours dit « moi, je n'ai rien à me reprocher ».
Oui.
Et ça coupait court à tout.
Elle a fermé la porte tout de suite, quoi. Ouais.
Oui.
Vous voyez, j'ai dit à Paul hier que j'avais beaucoup de chagrin pour le petit garçon qu'il avait été. Ben, j'ai le même chagrin pour la petite fille que vous avez été, parce que c'est pas juste tout ce qu'elle a subi.
Eh ben merci, madame.
C'est tellement pas juste. Et si je pouvais la prendre dans mes bras et lui donner toute cette chaleur-là, je le ferais.
Je vous remercie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai aucune question à vous poser. C'était juste... Je ne sais pas pourquoi il fallait que ça sorte de moi, que je vous en parle. Après avoir entendu Paul hier, il fallait...
Mais je comprends, parce qu'il y a vraiment une résonance dans ces deux histoires.
Oui.
Et vous avez bien fait de m'appeler, Marie.
Je vous remercie.
Passez une bonne nuit.
Vous aussi. Au revoir.